Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, bienvenue, je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour un sujet brûlant, un sujet que j'ai repoussé depuis longtemps et un sujet que maintenant je me sens capable de détailler avec toi, de te proposer en détail. On va parler aujourd'hui de culpabilisation émotionnelle, pas seulement avec nos enfants, pas seulement avec notre conjoint, mais vraiment la méthodologie. Pourquoi est-ce qu'au quotidien, on peut entendre des gens vouloir nous faire porter leurs émotions et à notre tour, parfois, essayer de ne pas faire porter nos émotions sur les autres. Tu as peut-être déjà entendu ce sujet-là dans plusieurs épisodes du podcast, notamment l'épisode 71 où je parle de contamination émotionnelle. Tu retrouveras ce thème dans beaucoup de contenus, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Clubhouse, que ce soit dans les épisodes du podcast et bien sûr dans les offres d'accompagnement. J'ai appris sur le terrain que les émotions des enfants ne faisaient pas partie de notre formation, que j'avais besoin de plus d'informations justement pour aller mieux avec ma classe, pour aller mieux moi-même. Ça m'a aidé dans ma famille de me renseigner sur la communication, sur les émotions et sur les besoins. Et maintenant, j'accompagne les familles qui le souhaitent à mieux comprendre les émotions de leurs enfants, à mieux comprendre aussi leur fonctionnement intérieur, donc leur cheminée des émotions. C'est un des sujets que j'aborde très régulièrement dans le podcast, dans les Rooms Clubhouse. Donc bienvenue si c'est la première fois que tu m'entends sur ces sujets. Peut-être que toi-même, tu as déjà été victime de culpabilisation émotionnelle. On va donner plusieurs exemples aujourd'hui sur ce thème-là. Comment cette thématique est venue ? En fait, au quotidien, je trouve qu'il y a des gens qui utilisent des formulations qui sont culpabilisantes. Ces formulations un petit peu maladroites, ça peut être par exemple « Ah bah Joseph, le dossier que tu m'as rendu, là, il est vraiment pas du tout comme je l'attendais, tu m'as beaucoup déçu. » Donc cette phrase « Tu m'as beaucoup déçu » induit que mes émotions sont liées au comportement de la personne en face, que ce soit mon collègue, que ce soit dans d'autres contextes. Imaginons la même situation dans un couple. Si dans un couple, on disait « De toute façon, si tu me fais ça, c'est fini, tu ne me reverras plus, tu vas me tuer », c'est clairement de la culpabilisation émotionnelle. On fait partir notre colère, on fait partir notre émotion, on fait porter notre tristesse à la partenaire de vie, au conjoint. Et vous avez peut-être été témoin régulièrement de sortes de culpabilisation en ce sens-là. Comment faites-vous quand on vous accuse de le rendre triste, de le mettre en colère? C'est quelque chose qu'on peut entendre au parc, notamment quand on se promène avec nos enfants. Est-ce que vous avez déjà entendu une maman dire « Oh, tu me rends dingue, tu me rends folle, tu me rends triste, tu me fais peur ?» Tout ça, c'est induire que le comportement de l'enfant a un pouvoir de modifier l'émotion de la maman. Alors peut-être que vous êtes habitué à manipuler ces notions-là, peut-être que pour vous c'est évident, ou alors ça va être une grande nouveauté en écoutant cette thématique aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à ne pas faire porter vos émotions à vos enfants, à votre conjoint, à vos parents, à vos collègues, à vos amis? J'ai un exemple professionnel pour le coup qui me vient en bas des newsletters. Vous avez parfois des liens de désinscription. Vous recevez sans doute comme moi beaucoup de newsletters et j'ai été étonnée de voir que certains entrepreneurs très réputés disaient en bas pour le lien de désinscription « ça va me rendre très triste si tu te désabonnes ». Pour moi, cette petite formulation, c'est clairement de la culpabilisation émotionnelle. Je fais porter à l'autre mon état intérieur. Je fais porter à l'autre comment je me sens moi. Alors que je suis la seule à savoir pourquoi je suis triste, je suis la seule à savoir pourquoi je suis en colère, et d'induire que si l'autre se désabonne, si l'autre se désinscrit, ça va le rendre triste. Je nomme l'autre responsable de mon état émotionnel. Alors, ça s'est fait depuis la nuit des temps. Ça continue de se faire dans des éducations traditionnelles, de dire à nos enfants « tu m'énerves, tu m'agaces, tu me rends triste ». C'est vraiment un principe que vous pouvez constater autour de vous. Et quand on dit à notre enfant « tu me rends triste, tu m'agaces, tu me rends folle, je fais tout pour toi, tu ne te rends pas compte de tout ce que je fais pour toi », c'est créer une relation verticale, c'est créer une relation déséquilibrée avec notre enfant. Ce serait la même chose si on disait à notre conjoint « quand tu fais ça, j'ai envie de mourir » et tout ça. Donc on est proche d'une sorte de chantage affectif, on est proche de la création d'une dette aussi émotionnelle en disant « à cause de toi, je me sens mal ». Je vous laisse quelques instants pour voir quels sont les derniers exemples qui viendraient popper au niveau de cette thématique-là. Est-ce que vous avez déjà ressenti que quelqu'un vous faisait porter sa colère, sa tristesse, sa culpabilité à lui en essayant de vous rendre responsable de ses émotions? Donc j'ai un petit exemple personnel. Il m'est arrivé de partir en vacances et de ne pas envoyer, par exemple, des photos de mes vacances à ma mère. Et ma mère me reproche de ne pas avoir envoyé de photos. « Ah bah, vous vous êtes bien amusé, hein. T'as même pas pris le temps de m'envoyer des photos. On voit que je compte pas pour toi. » Que ce soit le choix des mots, que ce soit la formulation, que ce soit le type de phrase, c'est une façon de rendre l'autre responsable de sa douleur, de son malheur, de sa souffrance. Si vous avez l'habitude d'écouter les épisodes du podcast, vous avez peut-être entendu plusieurs fois que j'essayais de décontaminer les cheminées des émotions de chaque personne. Vous, aujourd'hui, vous avez dans votre cheminée des émotions des flammes qui vous appartiennent, qui sont liées aux circonstances de votre vie, qui sont liées à vos projets, à vos renoncements, à vos couacs, et tout ça est légitime, tout ça est normal. Si aujourd'hui, je considère que Bertrand est très énervé, je suppose qu'il a une bonne raison d'être énervé, mais je ne vais pas le prendre personnellement, en croyant que mon comportement a énervé Bertrand. De la même façon, il peut y avoir une contamination émotionnelle quand on a passé une très mauvaise journée au travail, qu'on arrive, que notre enfant renverse son cartable, ne range pas ses chaussures, que l'ado n'a pas fait la vaisselle, toutes les situations que vous avez pu vivre de frustration avec vos enfants, et que vous, contaminé par vos propres flammes, vous fassiez rejaillir sur votre enfant votre frustration, votre culpabilité. On l'a tous fait, je ne vais pas m'exclure de ce système-là. Mais je vous invite à le conscientiser, à vous rendre compte que vous faites porter votre colère à quelqu'un qui n'a rien à voir. C'est le petit dernier qui prend pour la frustration que vous avez ressentie à la réunion avec votre collègue ou votre patron. C'est votre femme ou votre mari qui prend parce que ça ne s'est pas passé comme vous vouliez dans votre réunion, dans votre bilan, dans votre lancement. Et donc, on peut induire sur d'autres personnes que nous notre état émotionnel. Donc voilà la première définition que je voulais vous proposer aujourd'hui autour de la culpabilisation émotionnelle. C'est quand on essaye de rendre l'autre responsable de notre émotion actuelle. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu ou c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà constaté. Dans la relation parentale sur laquelle je suis spécialisée maintenant, il y a souvent des moments où on induit que le comportement de notre enfant, c'est un comportement inadapté la plupart du temps, quelque chose qui nous dérange, vient empêcher notre sérénité, vient nous impacter nous personnellement. Quand l'enfant n'écoute pas ce qu'on lui a dit, on pourrait lui dire « tu m'agaces, tu me cherches, tu me rends folle, j'en ai marre de toi, je ne t'aime plus, tu es méchant ». Donc on rejoint plusieurs thèmes de l'éducation autour de l'autorité, autour de l'étiquetage, autour du jugement et autour de la critique aussi, qui, à leur tour, sont dans ce chapitre de la culpabilisation émotionnelle. Si je dis à ma fille « tu m'agaces », elle va croire que son comportement me rend dans cet état-là. Pour la suite, ça peut être embêtant, parce qu'elle va essayer de se conformer et de rentrer dans le moule de ce qu'elle croit être un comportement attendu pour moi, alors que moi, je n'attendais pas forcément un comportement que j'ai explicité. Si je lui demande de m'écouter, si je lui demande de respecter ma consigne, j'aimerais que ce soit suivi. C'est une attente. Et en tant que parent, on a plein d'attentes, évidemment. Mais si je la rends responsable de ma frustration, si je la rends responsable de mon état émotionnel, de ma colère, de ma tristesse, je lui fais porter des choses qui ne la concernent pas. Et comme on est les figures d'attachement de nos enfants, c'était le cas aussi quand j'étais enseignante, on va se rendre compte que si je fais ça régulièrement, l'enfant qui est en train d'apprendre, de comprendre la vie, se dit « Ah, ben, j'ai le pouvoir de rendre les gens heureux, j'ai le pouvoir de rendre les gens tristes, je suis un élément qui impacte l'état émotionnel des autres. » Alors peut-être que vous ne voyez pas où est-ce que ça poserait problème. Mais ces enfants qui vont grandir plus tard risquent de vouloir faire plaisir aux adultes, risquent de ne pas vouloir les décevoir et donc ne pas être en autonomie émotionnelle pour eux, pour leurs propres projets, pour leurs propres émotions et nourrir leurs propres besoins. C'est là où il y a un fil à couper, selon moi, entre ce qu'on dit à nos enfants, ce qu'on dit à nos élèves. Si vous travaillez avec des enfants, c'est la même chose. Un animateur de centre de loisirs qui dirait à des enfants « Vous êtes méchant, vous m'avez fait mal, c'est à cause de vous que je ne vais pas bien, taisez-vous, vous faites trop de bruit », ça, ce ne sont pas des faits. Ça, c'est une partie des conséquences que je ressens, que l'animateur ressent et qu'on ne veut pas prendre en charge à notre compte, qu'on va refaire porter sur quelqu'un d'extérieur à nous. En parallèle avec la culpabilisation émotionnelle, qu'elle soit familiale, maternelle, amoureuse, il y a la résolution par la responsabilité. Ce sont des grands termes hein, que vous allez retrouver dans toutes les thématiques de développement personnel, dans les livres que vous lisez peut-être, mais quand on comprend que cette responsabilité émotionnelle, elle va garantir la qualité du lien que j'ai avec ma femme, mes enfants, mes collègues de bureau ou le directeur de l'association, je vais ensuite pouvoir m'imposer de la bonne façon, d'une façon honnête, d'une façon indépendante. Je vais pouvoir dire aux gens autour de moi, j'entends que tu es triste, je vois que tu es en colère, mais je ne suis pas responsable de ton état émotionnel. Je ne suis pas responsable de ta colère, de ta tristesse, de ta culpabilité, de tes doutes. C'est toi qui te mets dans cet état émotionnel parce que tu avais peut-être besoin de renfort, de confiance, d'écoute, d'empathie, de détente, de repos. Et on peut indiquer aux gens qui essayent de nous faire porter leurs émotions à quel point elles sont arrivées dans leur cheminée parce qu'il y avait des besoins qui clignotaient sur leur arc-en-ciel des besoins. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, vous allez être peut-être un petit peu confus avec tous ces termes d'outils. Le premier outil que j'ai mis en place dans ma classe, c'était l'arc-en-ciel des besoins. De définir que chaque humain, adulte et enfant, a des besoins universels à satisfaire. Donc il y a des rayures, donc il y a 7 rayures sur l'arc-en-ciel, vous le savez. Donc la rayure de survie, la rayure de relation, la rayure d'identité, la rayure d'autonomie, la rayure de sens, la rayure d'expression et la rayure de détente. Quand on voit quelqu'un qui est débordé émotionnellement, il y a une de ces rayures qui clignotait. Il y a des besoins qui n'étaient pas satisfaits. Au lieu de les regarder en face et au lieu de les nourrir par lui-même, cette personne a voulu les rebalancer sur quelqu'un d'autre. Et vous avez sans doute l'exemple de gens autour de vous qui font ça, qui ne veulent pas prendre en charge leurs propres émotions, qui vont dire « c'est ta faute si ». 3 points de suspension. « Je suis dans cet état à cause de toi ». 3 points de suspension parce que tu as fait ceci ou cela. Moi, j'ai mis ça en lumière par rapport à ma mère principalement. Hein, coucou maman si tu m'écoutes. Le fait de le conscientiser m'a fait prendre conscience que, à mon tour, j'essayais de faire plaisir constamment à certaines personnes qui ont de l'autorité, comme je le faisais avec ma mère, pensant naïvement que plus j'allais répondre à ces critiques, désirs, jugements, phrases et culpabilisations, plus j'allais en retour avoir de l'amour, de l'attention, de l'écoute, de la compréhension. Pour nourrir mes besoins, j'utilisais une stratégie maladroite que la personne en face alimentait constamment. Si autour de vous, il y a des gens qui vous disent « Ah ben je serais très heureux si tu faisais ça », c'est aussi de la manipulation. On va le faire. Peut-être si quelqu'un vous demande un coup de main pour son déménagement, vous n'allez pas vous dire « Il est en train de me manipuler ». Il a besoin d'aide, il l'exprime. Et s'il arrive à l'exprimer de manière calme, assertive et vraiment explicite, vous ne vous sentirez pas contraint, obligé, manipulé, culpabilisé. Mais parfois avec une inclination de tête, un petit regard de chapeauté, vous allez sentir que si vous dites non à cet ami-là, il va y avoir des conséquences, il va y avoir des retombées, il va y avoir quelqu'un qui rumine, qui est aigri, qui va vous en vouloir. Ces comportements-là qu'on voit au quotidien, ce sont des manières de se déresponsabiliser émotionnellement. Je peux entendre que l'autre en face n'a pas les mêmes désirs, n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes envies. Si je fais porter ma culpabilité à quelqu'un d'autre, j'abîme la relation. Je ne garde pas le lien entre nous. Alors parfois, on ne s'en rend pas compte. Parfois, c'est quelque chose qu'on a reproduit, qu'on a été élevé dans ce contexte familial. Tout le monde autour de nous fait ce genre de chantage affectif, émotionnel, et on a du mal à le conscientiser, on a du mal à le regarder en face. Et c'est bien naturel. Mais de temps en temps, demandez-vous si la personne en face se sent responsable de sa propre tristesse, de sa propre colère, de sa propre émotion, ou si elle essaye de vous contaminer avec pour essayer maladroitement, parce qu'il s'agit de ça, d'attendre un petit coup de main, un peu d'aide pour apprivoiser sa flamme à lui ou à elle. Donc dans ces cas-là, il y a deux postures possibles. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous rend responsable de son émotion, vous pouvez toujours, je vais toujours vous proposer ça, quelle que soit l'offre ou l'accompagnement qu'on va faire ensemble, de prendre du recul, de monter en haut du phare et de voir qu'est-ce qui se joue actuellement. L'autre essaye de me faire porter sa responsabilité. Est-ce que je me sens responsable de cet événement, de cette émotion ? Normalement, je n'ai pas à me sentir responsable, même si je l'aime, même si c'est mon mari, même si c'est mon enfant. Par contre, je vais pouvoir être un soutien, je vais pouvoir aller en renfort, collaborer, coopérer, lui donner mes compétences. Ça, je pourrais le faire. Par contre, je ne vais pas prendre en charge son besoin initial parce que lui-même n'a pas encore trouvé son besoin initial. La deuxième étape, c'est donc, quand on a fait la clarté sur ce qui se jouait dans la relation, c'est d'inviter l'autre à mieux reformuler pourquoi il est dans cet état-là ? Qu'est-ce qui a balancé l'étincelle dans sa cheminée des émotions ? Si c'est la première fois que vous entendez ce concept, il est dans l'épisode 9 et 10. Vous allez pouvoir retrouver en détail cet outil, ce processus que j'utilise à chaque accompagnement et qui vous permet de voir qu'aujourd'hui, la plus grosse émotion que vous allez avoir, elle va être liée à une circonstance extérieure, à tout ce que je me suis raconté sur cette circonstance, en fonction des besoins qui clignotaient déjà sur mon arc-en-ciel. Si je me suis mise en colère parce qu'un tel n'avait pas fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, c'est parce que j'avais un besoin de certitude, de stabilité, de clarté, de coopération. Ce n'est pas la faute de l'autre. Bien sûr, l'autre est l'auteur de ce fait. Mais c'est en moi que je dois trouver la réponse, le besoin, et adapter mon comportement en lui disant « Tu m'avais proposé de faire cette tâche, tu ne l'as pas réalisée ». Ça, c'est factuel. Là, je donne des mots factuels sur ce qui s'est passé ou non. Mais je ne vais pas dire « à cause de toi, je me suis mis en retard, tu m'avais promis, tu me déçois, je suis vraiment navrée de cette relation, tu n'es pas à la hauteur, etc. » Reprendre que chacun a des besoins sur sa colline, ce sont des termes qu'on utilise en communication non violente. L'autre en face de moi a des besoins, a une expérience, à des cicatrices, à des projets et à des émotions que je ne peux pas entièrement visibiliser. Je n'ai pas la main sur ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et souvent, il ne l'a pas non plus, parce que s'il l'avait, il ne ferait pas porter sur nous ses propres émotions, ses propres besoins, ses propres conditionnements, ses propres blessures, cicatrices et braises dans sa cheminée des émotions. Et parfois, c'est vous qui le faites. Et je m'inclus, parfois c'est moi qui le fais. Il peut m'arriver de faire porter mon émotion à quelqu'un d'autre, de culpabiliser émotionnellement une de mes filles, mon conjoint, parce que je suis tellement débordée par ma flamme que la phrase m'échappe et que je rends l'autre responsable de ma frustration. Donc la proposition que j'aimerais vous faire aujourd'hui, c'est à chaque fois que vous sentez qu'il y a une pression dans la phrase qui a été donnée, que ce soit vous qui l'envoyez ou que ce soit vous qui la receviez, de voir ce qui se joue. Qui essaye de faire porter ses émotions à l'autre? Comment s'extirper de cette contamination? Comment reprendre chacun notre autonomie sur notre colline et se dire « dans quel état suis-je ?» D'aller scanner notre flamme de cheminée des émotions, d'aller regarder le besoin qui clignotait sur notre arc-en-ciel de besoin, de voir quelle possibilité j'ai, quelle activité, quelle action je vais mettre en place pour que mon besoin initial aille mieux grâce à cette action, cette activité. Et là, c'est tout ce qu'on déroule quand on fait un scan individuel. Ça, c'est des séances à l'unité que vous pouvez réserver quand vous voulez. Et c'est aussi ce que je vous apprends à faire dans un parcours en ligne qui s'appelle Emotizen. Vous pouvez retrouver déjà une partie du script dans l'épisode 69 du podcast si vous voulez entendre comment on scanne une flamme d'émotion forte. Donc peut-être que aujourd'hui, demain, après-demain, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va vous balancer sa flamme, vous responsabiliser de son émotion. Et à ce moment-là, vous essaierez petit à petit de vous dire « Tiens, j'entends ce qu'il est en train de faire, ce qui se joue entre nous. Apparemment, il n'arrive pas à voir que c'est les circonstances, ses pensées, ses besoins qui clignotaient et ce qu'il se raconte sur la situation qui est en jeu. Je peux l'aider, je peux lui redonner la responsabilité de son besoin et de son émotion. » Donc, est-ce que ce thème-là vous parle? Est-ce que vous avez réussi à comprendre ce qui se jouait sur les deux collines en parallèle? Puisque moi, quand j'arrive face à cette personne qui essaye de m'envoyer un « tu me déçois » ou vraiment « ça me rend triste ce que tu fais », j'ai parfois un petit moment de sidération. J'ai parfois un moment où je me dis « waouh, ah oui, donc en fait, il me balance son émotion comme si j'en étais responsable. » La personne ne voit pas que ça ne vient pas de moi. Et j'hésite. Parfois, j'hésite à partir dans mes outils. Parfois, j'hésite à répondre simplement dans une communication empathique, d'écoute active, de reformulation de ses besoins pour éviter d'envenimer la situation, sachant que ça arrive quand les gens sont un petit peu à bout, sont un petit peu fatigués, sont un petit peu au-delà de leurs limites à elles. Si c'est difficile pour elles de comprendre pourquoi elles en sont arrivées là, il peut être plus simple de balancer sur quelqu'un d'autre son émotion et sa flamme. Voyez ça comme une proposition d'évolution. Il va y avoir des jours où on se sent incapable de prendre en charge nos émotions parce qu'elles viennent gratter sur des braises, parce qu'elles viennent nous irriter un petit peu sur l'image qu'on a de nous-mêmes. On aimerait être plus calme, on aimerait avoir plus de recul ou on aimerait avoir plus de maîtrise. Et c'est correct en fait, parce que notre besoin de résultat, notre besoin de contrôle, notre besoin de structure, notre besoin d'ordre font partie de notre liste de besoins. On les a tous ces besoins-là. Mais je ne vais pas nourrir mon besoin d'ordre de la même façon que vous, ou que mon patron, ou que mon ex. On a chacun nos stratégies sur notre éventail. Parfois, c'est difficile de renouveler nos stratégies. Donc, on retombe dans des vieux schémas. On va redire les mêmes choses à tout le monde. On va dire « tu m'écoutes pas, tu verras quand je serai morte ». Et ça, c'est de la culpabilisation émotionnelle. Dire que je souffre, dire que j'ai besoin d'aide, c'est se mettre en vulnérabilité. Et ça peut être compliqué pour certaines personnes de dire « je ne me sens pas bien » ou « quand je ne reçois pas de photos, ça me rend triste parce que j'aime être connectée avec vous, j'aime savoir ce que vous faites. Quand tu m'envoies des photos, je me sens mieux. » Et la façon de choisir les mots, la façon de tourner la phrase est très différente d'un reproche, d'un jugement, d'une critique ouverte que mon comportement aurait induit une souffrance ou un malheur chez quelqu'un d'autre. Donc dites-moi si ces notions sont un petit peu plus claires pour vous, si vous voyez des exemples dans votre vie personnelle qui rebouclent avec cette culpabilisation. Je vais vous redonner les trois pistes que je vous propose pour en sortir. La première, c'est d'aller voir comment fonctionne notre cheminée à nous pour qu'on soit complètement autonome émotionnellement. Parce que si nous, on arrive à conscientiser le besoin qui clignotait, l'émotion et la flamme qui est apparue, et de voir que j'en suis complètement responsable, cette première étape va me permettre de bien voir en face si les gens savent le faire ou non. Donc ça, ce serait vraiment la première étape. La deuxième étape, ce serait de se dire, quand quelqu'un essaye de me faire porter sa culpabilité, sa colère, sa tristesse, c'est humain. Donc je peux me relier d'une manière humaniste, je peux me relier d'une manière de cœur à cœur, on dit en communication, avec empathie. Ça veut dire que je ne réagis pas tout de suite à ce qu'il va me faire porter, je ne réagis pas tout de suite quand il me dit « tu me rends triste, tu es méchante, c'est à cause de toi si j'ai perdu mon boulot ». Je vais écouter ça avec mes oreilles de girafe, je vais écouter ça en me représentant quelle est son émotion, quelle est sa flamme, quel est son besoin à lui, parce qu'il est en train actuellement de souffrir. Il est en train de perdre pied dans sa propre flamme. Je ne suis pas là pour lui apprendre à faire tout ça. S'il veut, il pourra le faire en parallèle. Mais cette deuxième étape, c'est de se dire, je n'ai rien à voir avec son émotion, mais je peux essayer de chercher pourquoi il se met dans cet état. Oui, il essaye de me rebalancer son émotion. Ça, c'est une stratégie. Mais pourquoi est-ce que ça l'emmène à cette stratégie? C'est parce qu'il est démuni dans sa cheminée, avec sa flamme, avec ses besoins, qu'il est en train de couler actuellement. Donc la deuxième étape, c'est de se rapprocher avec empathie de ce qui se joue sur la colline de l'autre. Et puis la troisième étape, vous vous en doutez, c'est de faire une proposition pour remettre à chacun la responsabilité de ses actions et de ses pensées. Quand l'autre vous reproche de le rendre triste, vous allez pouvoir lui dire « Ah, je vois que tu es très triste. Est-ce que c'est quand ?» Et vous redéfinissez la circonstance, l'action, le fait extérieur neutre, le déclencheur. Mais vous allez reformuler le déclencheur. Le déclencheur n'est pas vous. Vous, vous êtes peut-être la main du déclencheur et encore. Donc vous allez dérouler un petit peu tout ce qui s'est passé en amont de sa flamme pour lui proposer une explication où vous allez vous extraire de la responsabilité de sa flamme à lui. Donc si c'est la première fois que vous m'écoutez parler de tout ça, ça peut être un petit peu complexe, hein, je le reconnais. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur Clubhouse pour me demander plus d'informations, plus de détails, plus d'explicitations. Vous retrouverez aussi des publications sur Instagram et sur Facebook pour aller plus loin sur ces notions-là. Mais ces trois étapes-là, si vous prenez vos flammes en responsabilité, si vous regardez ce qui se passe sur sa colline à lui, et si vous essayez de reformuler ce qui s'est joué entre vous deux pour bien lui montrer que votre responsabilité n'est pas engagée, c'est pas pour avoir raison, hein. C'est juste pour poser les choses de manière calme, parce que sinon ça va être la surenchère. L'autre vous balance son émotion, si vous vous dites « ben il est con ou quoi, ça n'a rien à voir avec moi » et que vous lui balancez ça tel quel, non seulement il va continuer à croire que c'est de votre faute, il ne va pas se remettre en question. Et puis, la troisième action, c'est que la relation s'abîme. Alors que se sortir de la responsabilité de l'émotion de l'autre, ça demande des pincettes, oui. Ça demande de la reformulation, oui. C'est difficile, surtout si c'est quelqu'un qui nous touche affectivement. Hein. Je vous parle souvent des dialogues un peu houleux avec ma mère. C'est la personne avec laquelle j'ai le plus de mal à faire de reformulation positive et empathique. Parce qu'à chaque fois qu'elle me fait porter ses émotions, je suis en sidération, en colère et en agacement total de me dire « Ah, ça recommence, ça y est, elle me fait porter ses émotions ». Vous voyez aussi pourquoi j'en suis arrivée à faire ce travail sur moi et de faire ce travail aussi avec les clientes que j'accompagne. Parce que je le vis tellement au quotidien, ça fait tellement sens pour moi que tant qu'on veut faire porter nos flammes à quelqu'un d'autre, on va être tous les deux dans une position qui ne sera pas horizontale, qui ne sera pas égalitaire. On va donner à l'autre un pouvoir sur nos émotions qu'il n'a pas. Et on va oublier que le pouvoir sur nos propres émotions, on peut l'avoir si on fait un petit effort. Et oui, c'est compliqué. Vous pourrez écouter le témoignage des clientes qui ont vécu Emotizen. Ça ne vient pas tout seul. Il faut plusieurs mois de pratique pour conscientiser les besoins, pour conscientiser les flammes et pour agir sans partir en vrille. Et c'est normal, parce que c'est un fonctionnement qu'on n'a pas appris à l'école, qu'on n'a pas appris en formation, c'est quelque chose de nouveau. Donc je vous invite vraiment à aller scanner vos besoins, vos émotions, à faire le maximum que vous pouvez pour vous détacher de ce que les autres balancent sur vous quand ils vous rendent responsable de leur tristesse, colère, vie, souffrance, malheur, dès que ça commence par « c'est à cause de toi si ». Ah bah oui, si tu n'avais pas fait ça. De toute façon, quand tu fais ça, tu le fais exprès. Toutes les étiquettes qu'on a pu essayer de vous poser sur le front, sur vos actions, sur vos choix, sur peut-être votre déménagement, votre choix de carrière, tout ça, l'autre s'en sert comme excuse pour justifier son état désagréable. Et je me relie à vous si c'est difficile, notamment avec votre famille, ou avec votre belle-famille, ou avec vos enfants, ou avec vos ados. Parce que quand les enfants grandissent, clairement, eux aussi, ils font de la culpabilisation émotionnelle. Ils vont dire, de toute façon, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'aimes pas, et exprimer leur frustration, parce que c'est plus simple de dire, c'est de la faute de maman, c'est de la faute de la belle-mère, c'est de la faute de l'autre. C'est un peu délicat d'aller voir ce qui se joue entre le déclencheur, ce que je vis moi, et puis ce que j'aimerais maintenir comme lien dans la relation. Si c'est quelqu'un qui vous importe, si c'est quelqu'un qui compte dans votre vie, vous allez avoir envie de le re-responsabiliser sur ses besoins à lui. Mais ça va être compliqué, parce que cette notion est peut-être très éloignée de son quotidien. Et le fait que l'autre en face ne connaisse pas ses besoins, ne connaisse pas ses émotions, ne connaisse pas non plus la responsabilité de ses choix, de ses actions, de ses angles pour ses projets, risque d'handicaper le dialogue. Parce que si vous vous, vous fermez en disant « de toute façon, j'ai rien à voir avec ça, je ne le prends pas personnellement au sens des accords Toltec », ça pourrait être interprété de sa part à nouveau comme « ah oui, t'en as rien à foutre de moi, ça ne t'intéresse pas ce que je te dis, tu vas me laisser crever dans mon coin ». Et vous risquez d'avoir une deuxième couche, puisque si c'est un fonctionnement qu'ils ont d'habitude, ils vont vous en remettre une deuxième, une troisième, une quatrième couche. Donc la seule façon de se défaire de cette culpabilisation continuelle, c'est vous de vous reformuler que l'autre a une vision de la situation qui est déformée par rapport à ce que vous, vous voyez, qu'il ne prend pas en charge ses besoins et ses émotions et que vous n'êtes pas là pour lui apprendre tous ces phénomènes. Vous pouvez le rediriger vers moi si vous en avez l'audace et l'occasion, mais ces dynamiques-là, ces dynamiques intérieures, si elles étaient apprises très tôt, si elles étaient enseignées non seulement aux parents, aux éducateurs, aux maîtresses et tout ça, on gagnerait un temps fou. Chacun prendrait ses émotions en charge. Chacun prendrait ses besoins en charge. C'est un de mes idéaux, hein, maintenant dans ma mission. Mais vous, chacun à votre niveau, aujourd'hui, vous pouvez vous dire, j'ai parfois des formulations qui rendent l'autre un peu responsable de comment je me sens. Et ça part très vite, hein. Ça part dans une dispute de couple, ça parle au nouvel an quand il y a tout le monde qui s'écharpe sur « ah bah oui, t'as pas pensé au cadeau » et tout ça. Donc ce sont des événements quotidiens qui viennent ponctuellement, peut-être au boulot aussi, peut-être dans votre association sportive. Des fois, il y a une petite phrase qui sort et qui est clairement de la culpabilisation de l'autre. C'est un fonctionnement pour lequel on se sent impuissant à notre tour. Si c'est par exemple votre maman, puisque là c'était le cas dans la newsletter, quand c'est votre maman qui vous fait constamment porter sa souffrance, son malheur, en disant « de toute façon tu ne te rends pas compte, tu ne t'occupes pas de moi, tu ne m'envoies pas de photos » et tout ça, elle, pour elle, c'est la meilleure stratégie qu'elle a trouvée à ce moment-là. C'est une stratégie maladroite, c'est une stratégie tragique, c'est une stratégie qui induit que je suis le bourreau, que je suis le persécuteur dans le triangle de Cartman. Elle se victimise en disant que elle est la gentille, elle est l'innocente, et qu'en gros, c'est tout le mal est sur moi. Donc parfois, c'est un peu plus gris, c'est un peu moins en noir et blanc, mais voyez autour de vous tout ce qui se joue sur « tu me rends triste, c'est de ta faute si je suis en colère, si tu n'avais pas fait ça, j'irais mieux », etc. Ces petites phrases qu'on entend au détour d'une conversation et qui plombent non seulement la qualité du lien, mais aussi la visibilité qu'on a de soi à soi. Parce que si on est tout à fait honnête, il y a des moments où on ne veut pas assumer notre honte, notre surprise, notre colère, et puis on laisse passer un ou deux jours et on se dit « oui, j'ai abusé ». J'ai fait croire à l'autre que c'était de sa faute, mais si je suis complètement honnête, je suis responsable de mon état. Et je peux ensuite, quand je reprends la responsabilité de cette flamme, aller faire une proposition qui soit plus horizontale, qui nous serve tous les deux. Il ne s'agit pas de se réécraser à nouveau en disant « bah oui, c'est de ma faute ». Non, non, on ne va pas basculer d'un pôle à l'autre en disant « je suis complètement innocent » à « c'est de ma faute, tu as raison, c'est à cause de moi si tu te sens comme ça ». Il y a aucune occasion où je dois me sentir responsable de l'émotion de qui que ce soit un élève, que ce soit un collègue, que ce soit mon conjoint, que ce soit mon enfant, que ce soit ma mère. Et clairement, c'est plus difficile avec certaines personnes de votre cercle proche que certaines personnes pour lesquelles vous n'avez pas d'enjeu, vous n'avez pas de cicatrice, vous n'avez pas de braise, vous n'avez pas de passif. Quand on parle avec des gens qui ont impacté une partie de notre vie, de notre structuration quand on était petit, donc bah, vos parents, vos grands-parents, et qu'ils sont persuadés d'être dans leur bon droit. Eux, ils sont persuadés qu'ils ont raison. C'est leur mode de fonctionnement. L'enfant, s'il n'écoute pas, ben, il est impertinent, donc il rend ses parents malheureux, il rend ses parents tristes. Ce sont des raccourcis quand même phénoménaux. J'ai un autre exemple en entrepreneuriat. Je suis dans deux cercles d'entrepreneurs et il y a une des responsables qui me dit « Oh mais oui, mais tu serais tellement bien. Viens te présenter à l'Assemblée Générale pour renforcer l'équipe. Ce serait vraiment super. Oh, tu peux bien faire ça. » Et dans le choix de ces phrases, dans le choix de ces mots, ça laissait entendre que si je ne le faisais pas, je ne serais pas une bonne personne. Je ne serais pas assez soutenante. Parfois, la phrase est ambiguë. Parfois, on est sensible à la formulation ou non. Mais il peut y avoir des demandes, des exigences, hein, au sens de la communication non violente. La différence entre une demande et une proposition par rapport à une exigence, c'est qu'on se sent obligé de dire oui parce qu'on a peur des conséquences si on disait non. La dernière fois qu'on vous a demandé de faire quelque chose, est-ce que vous vous êtes senti complètement libre de dire non ou est-ce que vous avez senti que si vous disiez non, ça vous serait reproché, il y aurait des petites phrases un peu sarcastiques, un petit peu perfides, un petit peu « Ah oui, de toute façon, on ne peut pas compter sur toi ». Ces phrases-là qui sont balancées, c'est à nouveau une pointe de culpabilisation émotionnelle. Je ne veux pas reconnaître que j'avais une grande attente de soutien, de partage, de coopération. Et puisque tu dis non à mon invitation, puisque tu refuses ma proposition, c'est que tu me fais du tort. Et Marshall Rosenberg, le fondateur de la CNV, utilise la formule qui est assez pratique, c'est est-ce que tu veux avoir raison dans cette conversation ou est-ce que tu veux être heureux dans le lien, dans la relation. Et quand les gens vous font porter leur propre flamme, leurs propres émotions, c'est qu'ils veulent avoir raison. Ils ne veulent pas forcément garder le lien. Voilà des petits points, des grilles de lecture pour les situations où vous allez vous sentir obligé, hein, au sens philosophique, se sentir obligé, se sentir contraint. Est-ce que vous êtes complètement libre de décider de dire un vrai oui ou un vrai non? Parfois, c'est de l'interprétation et parfois, ça se répète quand même tellement souvent que finalement, c'est un schéma de fonctionnement qui pourrait être un peu creusé. Je pense en effet que personne n'y échappe. Si c'est ça vraiment le contexte familial, personne n'y échappe parce qu'on est dans une transition de génération où les anciens disait « c'est de la faute des autres ». Et que cette prise en compte de l'émotion et du besoin de l'enfant, du conjoint, du partenaire, il y avait une sorte de respect, de domination, de soumission qu'on évoque beaucoup en parentalité, où si je ne fais pas comme tu m'as demandé, je suis rebelle, je suis à la marge. Si je suis rebelle et à la marge, je contrarie l'autre, je contrarie l'adulte. Est-ce que l'autre est capable de se remettre en question et d'assumer d'être contrarié pour lui-même, ou il va se dire « je suis contrarié à cause de toi, point ». Tu vois, c'est quand même beaucoup plus facile de dire que c'est la faute des autres si tu ne te sens pas bien. Je crois qu'en effet, il y a sûrement plusieurs membres de notre famille qui ne se remettra pas en question sur le fait de balancer tranquillement, mais sûrement, ses émotions sur les autres en ne faisant pas attention à la sensibilité de la personne qui les reçoit. D'où les gens qui sont très people pleaser pendant des années, tu vois, pendant 20, 30 ans, bombardent tout le monde et balancent des grenades en disant « Mais vous êtes égoïstes, c'est vous les égoïstes !» Alors voilà, la nuance, c'est si on se maintient dans une position de « Oui, c'est sûrement de ma faute si tu te sens mal, c'est sûrement de ma faute si tu es malheureux », le jour où on se réveille, on se dit « Bah non, en fait, je ne suis pas du tout responsable de tes émotions. Ça t'a bien arrangé de faire tout porter sur moi, mais je refuse ce colis. » C'est vraiment, on ne va pas chercher le colis. Il va rester chez celui qui l'a envoyé. Et c'est un choix. C'est un choix difficile parce que ça veut dire accepter de décevoir. Ça veut dire accepter de s'opposer. On n'est pas toujours prêt à affronter les émotions de nos parents, de nos beaux-parents, en disant « bah non, je ne viendrai pas, je n'ai pas envie ». Mais peut-être qu'avec la maturité, à un moment, on n'en a plus rien à faire de descendre. Et c'est une manière de trouver une raison et une cause extérieure à soi. C'est en ce sens-là que c'est bien de la culpabilisation, parce qu'elle peut dire, quand tu as fait ça, je me suis sentie mal. Et là, elle reprend la responsabilité de son état. Mais si elle te lance que tu lui as fait du tort, tu es l'auteur de ce mal-être, tu es responsable, comme si elle n'avait rien du tout à voir dedans. Peut-être que c'est le dosage entre prenons des torts mutuels, nommons-nous co-responsables de cette injustice. En plus, l'injustice, c'est subjectif. Parce que si tu lui as pas répondu à son texto dans les 48 heures, certains peuvent être offusqués à mort. Donc ça, c'est vraiment libre à la grille d'interprétation de chaque personne. Est-ce que c'est un cas d'injustice où les gens sont capables d'aller rétablir eux-mêmes le tort qu'ils ont vécu de manière encore plus démesurée? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de repère? Et est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'être entendu? C'est peut-être ça vers lequel on pourrait les guider. Est-ce que tu as besoin d'être entendu? Raconte-moi pourquoi tu te sens dans cet état-là. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour sortir de la situation? Et là, on redevient acteurs tous les deux de la problématique. Mais arrête de dire que c'est tout est de ma faute. Arrête de dire que c'est à cause de moi si, trois petits points, je me sens comme ça. Si je ne m'improvise pas comme ayant la frontière entre le bien et le mal, mais que je parle depuis moi ce que je ressens, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, et que j'admets que l'autre en face, il a peut-être vu d'autres choses de la situation, compris d'autres choses, et que ça a résonné différemment, il y a une espèce d'humilité qui s'installe en disant « Ah bah toi, tu trouves ça mal. Bah, raconte-moi en quoi tu trouves ça mal. » Quand je lui propose de m'expliquer, quand je lui propose de me dire pourquoi il souffre, pourquoi il trouve ça mal, je ne m'associe pas au fait que je suis dans le mal et lui dans le bien. C'est à nous d'éclater en fait cette barrière continuelle entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, parce que ce sera toujours subjectif. Oui, il y a des lois, mais quand tu vois tous les détournements de lois qui peuvent être dans l'actualité, finalement les gens veulent avoir raison sur ce qu'ils pensent être juste ou ce qu'ils pensent être mal. Tu ne peux pas raisonner quelqu'un qui va te dire « c'est mal, point, tu devrais avoir honte, point ». Bah, laisse-moi avec ma honte, hein, je vais décider toute seule si je dois avoir honte. Moi, je pense que c'est une facilité que certains ont de décider pour les autres comment ils devraient se sentir. Tu devrais avoir honte, tu ne devrais pas faire ceci. Si tu fais ça, tu auras des problèmes. C'est à la fois Madame Irma qui fait des prédictions, à la fois je connais tout, j'ai la science infuse, donc c'est très égotique, et à la fois je suis le point de référence ultime et je n'admets pas que l'autre en face de moi puisse avoir d'autres angles de réflexion. Tu ne vas pas essayer de leur faire comprendre que leur vision du bien et du mal, que leur vision du juste et de l'injuste n'est pas la tienne, pour ton confort d'esprit et pour ta légèreté à toi. Tu vois, une des culpabilisations émotionnelles, ce serait de dire aux parents « Vous risquez de tuer votre enfant si vous faites du cododo. » Là, clairement, tu sors de ta posture de pédiatre, tu sors de ta posture d'expert si tu présentes les choses de manière à ce que tu seras l'auteur de la mort de ton enfant. Voilà les flammes, hein, magnifique quand même. Si tu fais cette décision-là, attends-toi à des conséquences horribles, dramatiques. Mais ce qui est caché derrière, c'est l'inquiétude du professionnel, l'impuissance du professionnel, puisqu'ils ne sont pas dupes. Hein, on peut très bien dire oui dans le cabinet et faire ce qu'on veut derrière. Comme les parents, des fois, me disaient que l'enfant avait son lit tout seul et que souvent, l'enfant me disait « je dors dans le lit de mes parents ». Tu vois, on a la vérité qui se rétablit de temps en temps. Mais moi, je peux être inquiète pour la santé de l'enfant, je peux informer, mais dans le choix de mes mots et dans le choix des possibilités, je préfère présenter un éventail de stratégies en alertant sur les conséquences éventuelles, mais laisser le choix à l'autre. Et c'est là où peut-être on est moins dans la culpabilisation, comme tu dis, de poser des questions à la personne pour qu'elle puisse expliciter pourquoi elle fait ce choix. Est-ce qu'elle a bien réfléchi aux conséquences? Est-ce qu'elle prend en charge la décision? Est-ce qu'elle se sent responsable de ce qui va arriver si jamais? C'est juste lui donner l'entièreté des éléments pour qu'elle puisse après faire son truc sur mesure. Donc la posture du professionnel, on y revient souvent. Est-ce qu'elle est dans « voilà les éléments et je vous laisse décider » ou alors « vous ne devriez pas faire ça, si vous faites ça c'est dangereux, vous serez des criminels si… » Trois petits points. Compliqué quand même. Pour un professionnel d'aller dans le jugement et dans l'injonction, dans l'exigence. Et il y a aussi, malheureusement, une judiciarisation qui se fait en tant que professionnel. Ils ne veulent peut-être pas qu'on leur reproche de ne pas avoir bien informé. Donc la manière de bien informer n'est peut-être pas très adroite, habile, mais peut-être que c'est une manière détournée de ne pas vouloir avoir de problème judiciairement, éthiquement, et puis aussi en légèreté. C'est-à-dire, bon, moi je dis ce que j'ai à dire, si l'autre le prend mal, si l'autre ne comprend pas, je m'en décharge. Parfois, la culpabilisation, pour moi, c'est aussi une manière d'aller au plus rapide et de ne pas creuser l'échange, de ne pas s'intéresser à l'autre et ce qu'il ressent. La question la plus puissante du monde, pour moi, c'est comment tu te sens, comment tu vis la situation. Si on demandait aux gens toute la journée cette question-là, mais tout le monde prendrait sa responsabilité et ses besoins, ce serait magnifique, ce serait un monde parfait. Au lieu de dire, non mais t'as abusé, tu te rends compte de ce que t'as fait, t'es méchant, t'es dangereux pour tes enfants, t'es un criminel. Waouh, guirlande, guirlande de jugement, guirlande de critique. Alors que chacun est bien libre d'agir comme il le veut, s'il comprend que c'est lui qui en paiera les conséquences. C'est comme certains ados qui disent, oh ben, je comprends pas, on m'a mis en garde à vue, ah, c'était juste 2 grammes, c'est bon quoi. Qu'est-ce que t'as pas compris? Il y a un cadre de référence. Si tu deals, tu peux être embarqué. Tu viens pas te plaindre que tu es embarqué si tu deals. Les conditions, tu les avais. Donc l'information, si on la donne, si on voit qu'il y a des conséquences, bon après tu peux éviter, tu peux essayer d'échapper aux règles établies ou à la justice. Mais je suis toujours étonnée des gens qui se disent, ah ben non, c'est pas juste, je comprends pas pourquoi on m'a fait ça. C'est comme quand tu reçois ton amende et que tu as grillé le stop ou que tu as dépassé la limitation de vitesse. Tu le savais que si tu dépassais la limitation de vitesse, tu pouvais te faire flasher. À un moment, il est vraiment question de ne pas faire porter à quelqu'un d'autre ce qu'on a agi. J'ai agi, j'assume. Si j'assume pas, ben, je ne fais en tout cas pas porter la responsabilité de mes actions à quelqu'un d'autre que moi. Mais moi, je l'ai vu dans le couple de mes parents, je l'ai vu au travail, je l'ai vu avec le ministre de l'Éducation nationale. Enfin, au jour le jour. Tout le monde se déresponsabilise. C'est fabuleux, quoi. Tout le monde dit, c'est pas moi qui gérais le stock de masques, c'est pas moi qui ai dit que c'était pas dangereux ce virus. Enfin, des trucs ubuesques même dans le gouvernement. Au quotidien, il y a des gens qui se déresponsabilisent continuellement. Donc nous, en tant que parents, bah, si on y réfléchit, on peut se dire qu'on peut essayer de casser un tout petit peu le moule en essayant de dire à nos enfants, bah oui, là tu tenais la tasse, tu l'as mal tenue, elle est tombée, elle s'est cassée. Mais si j'arrive en braillant sur mon enfant en disant « Mais t'es incapable, t'as cassé cette tasse, je peux pas te faire confiance », rien à voir tout ça. Si je reste dans le descriptif, si je reste dans « Qu'est-ce qui s'est joué pour lui ?»« Comment il a vécu la situation ?»« Quel âge il a ?»« Quelle maturité il a ?» C'est pareil que si tu parlais à ta grand-mère qui a Alzheimer, il ne te viendrait pas à l'esprit de lui dire que c'est de sa faute si t'es en retard au boulot. Tu vois bien que c'est complètement ubuesque. On prend nos responsabilités, on a raté le bus, bah c'est de notre faute, on a raté le bus. On va pas dire oui, c'est parce qu'il pleuvait, c'est parce que ma fille était en retard, c'est parce que bah, j'ai raté le bus, j'assume. Mais nous, ça nous met dans un inconfort. Ça nous met vraiment dans une situation qu'on n'a peut-être pas envie de regarder en face. Alors je dis pas qu'on est toujours en état de le faire, hein, encore moins quand on est parent. Mais si on était honnête avec nous-mêmes, on pourrait aller creuser que chaque situation a un impact sur nous. Et qu'au lieu de reporter l'impact sur nous, sur quelqu'un d'autre, on peut se dire, OK, ben j'ai merdé, j'ai pas assuré. Je peux creuser de moi à moi sans dire que c'est la faute de mon mari, que c'est la faute de ma fille, que c'est la faute de mon patron, que c'est la faute du chauffeur de bus, c'est la faute de Blanquer. Bref, en sortir de se ressasser d'aigris, d'amertume. Sinon, on finit comme Tati Daniel, tu vois, il n'y a rien qui va, c'est tout le temps la faute des autres, le monde est méchant, il y a de la peur à l'extérieur, on peut faire confiance à personne, c'est la faute des immigrés, c'est la faute de ceci. Toutes ces notions-là qui sont, au lieu de me dire je suis inquiète, j'ai peur, mes enfants, dans quel monde ils vont vivre, ça c'est le normal en fait, c'est des flammes qu'on peut ressentir. Mais dire que c'est la faute de la société, que c'est la faute, non, c'est pas concret, c'est pas factuel, c'est pas une description correcte de la réalité. Il y a plusieurs moyens. Hein. Moi, des fois, quand je vois que c'est quelqu'un qui vraiment me balance telle quelle sa flamme sans même la filtrer, je suis plutôt sidérée. Je suis plutôt en état nerveux de figer. Parce que je me dis, waouh! Pourtant, avec tout ce que j'explique, elle en est encore à me reporter sa frustration, sa flamme, sa peur. Je suis surprise en fait, je suis surprise et sidérée. Et des fois, quand il y a eu trop de... que le réservoir est vraiment vide, il y a une impulsion d'attaque, en effet. Ça peut être une contre-attaque, parce que là, j'en ai marre de me laisser faire dans ma journée, que ma flamme d'impuissance, elle a déjà morflé, et donc de passer à l'action et de reporter sur le dernier de la journée qui l'ouvre, c'est lui qui prend. J'ai déjà fait ça avec Michael plein de fois. Et si je suis très honnête, c'était une frustration pour mon boulot ou c'était un agacement par rapport aux filles. Et finalement, quand on discute, bah, c'est lui qui prend. Il n'a rien à voir dans cette affaire. Donc si vraiment on était humble, on se dirait on fait parfois porter nos propres frustrations à notre partenaire de vie, à notre enfant. Et c'est humain, finalement. On a besoin de soutien, mais on n'arrive pas toujours à demander du soutien, à demander de l'aide, à se mettre en demande. Et j'avais entendu aussi une fois qu'on avait d'autant plus de mal à demander que nous, on avait de mal à dire non aux autres. C'était proportionnel. Plus les gens te demandent du soutien et de l'aide, si tu n'arrives pas à leur dire non, toi aussi, de ton côté, tu as du mal à demander de l'aide et du soutien. Alors que si on peut admettre que chacun dit non quand il veut et que quelqu'un qui nous dit non, bah c'est qu'il est encore plus honnête finalement. C'est qu'il arrive à s'écouter et à ne pas te reprocher plus tard d'être venu de force à ton déménagement pour dire après à tout le monde, ouais, bah, de toute façon, il n'a pas d'amis, j'étais obligée d'aller à son déménagement. Enfin, tu vois, tous les trucs qu'on raconte qui ne sont pas réels non plus. Donc, se forcer ou ne pas demander d'aide, c'est aussi une face indirecte de culpabilisation. Parce qu'on se met dans une dynamique où on va reprocher à long terme aux autres de ne pas nous avoir proposé d'aide, mais nous, on a été incapables de la demander. Et il y a beaucoup de mamans qui sont en séance avec moi qui font ça. Mais non, je ne vais pas demander de l'aide. Mais si, demande. Demande de l'aide. Déjà parce que ça va muscler la compétence à demander de l'aide. Et qu'en plus, il y a des gens qui sont contents d'aider. Peut-être qu'ils diront non, mais peut-être qu'ils diront oui. Franchement, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Demander de l'aide. Puis bon, c'est un sujet sensible, il faut quand même le dire. L'introspection émotionnelle, c'est pas non plus la panacée. Il y a des gens pour lesquels je ne cherche même pas à comprendre ce qu'ils ont senti de leur émotion intérieure. Des fois, je lâche prise. Ça me frustre, mais tu crois que c'est de ma faute? Ok, bah, tu crois que c'est de ma faute. Je me reformule, que je n'ai rien à voir avec son émotion, que c'est maladroit pour lui de me balancer ça et que j'ai d'autres chats à fouetter et que mon énergie va être distribuée sur d'autres combats que faire entendre raison à cette personne qui se décharge sur moi. Pour moi, c'est une manière de se décharger aussi. Alors, parfois, c'est que des mots, heureusement. Puis parfois, ça peut glisser vers de la violence aussi. C'est-à-dire qu'on ne se suffit pas de dire « t'es méchant, c'est de ta faute si je suis en colère » ou « tu rends maman malheureuse ». Quand l'autre ne réagit pas, quand l'autre devient un punching ball, quoi. Ça peut aussi être triste. On peut être dans la prévention à ce niveau-là, que si on ne réagit pas, si on ne s'oppose pas, il peut y avoir une sorte d'escalade que l'autre continue en se disant « ah ben j'ai trouvé une stratégie qui fonctionne, il ne réagit pas, je vais continuer à lui crier dessus, je vais continuer à le punir, je vais continuer à le taper parce que c'est quelqu'un qui ne s'oppose pas à moi. » Ce qui est triste pour un enfant, mais ce qui est triste aussi dans des relations qui ne seraient pas égalitaires dans des couples, par exemple. Je vous propose vraiment de regarder dès aujourd'hui comment vous vous sentez quand quelqu'un vous fait porter son émotion. Est-ce que vous arrivez à répondre? Est-ce que vous arrivez à prendre un tout petit peu de distance sur sa phrase, à vous reformuler que c'est son émotion à lui, c'est son émotion à elle et que vous n'en êtes pas responsable? Ou est-ce que c'est encore difficile? Et si c'est encore difficile, bah, je vous invite soit à écouter l'épisode 69 qui vous propose le scan de votre cheminée ou vraiment à explorer vos besoins, vos émotions de manière autonome ou avec moi si vous le souhaitez. Mais parce que c'est vraiment une libération de se dire « mais tous ces gens qui s'agitent autour de moi, je ne suis pas responsable en fait de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Je peux être un soutien, mais ce n'est pas à moi de régler leurs problèmes. Ce n'est pas à moi de soulager leurs émotions. » Ce n'est pas ma mission de vie, enfin à titre privé, parce qu'à titre pro aussi. Bonne semaine, au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.